Europe Soir, Céline Géraud.
On est de retour et jusqu'à 20h, surtout ne bougez pas, installez-vous confortablement. On est là, on s'occupe de tout, on s'occupe de vous ce soir. Alors au sommaire de cette prochaine demi-heure, à l'Assemblée, les députés qui planchent sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat, des centaines d'amendements à l'étude, qu'est-ce que cela va changer dans notre quotidien ? On en parle ce soir. On reviendra aussi sur le marathon parlementaire qui continue pour la Première ministre Elisabeth Borne avec la première séance très musclée de questions au gouvernement. Et mais tout de suite, on va parler de ce déplacement d'Emmanuel Macron. C'était en Isère cet après-midi et en marge des annonces officielles, eh bien le président a tenu à répondre aux révélations concernant son rôle dans l'affaire des Uber Files. Et ça valait le détour. Alors pour en débattre dans le studio ce soir, j'accueille François Calfon, membre du bureau national du Parti Socialiste.
Bonsoir.
Merci d'être là. Et Louis Dragnel, qu'on ne présente plus, chef du service politique d'Europe 1.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Allez, c'est parti. Et au lendemain donc de ce sommet Choose France à l'Élysée, le président de la République s'est donc rendu ce matin dans cette usine ST Microelectronics, c'était à Crolles. Et après l'annonce d'un investissement de près de 6 milliards d'euros pour la production de composants électroniques et de la création de 1000 emplois, eh bien c'est la réponse d'Emmanuel Macron dans l'affaire des Uber Files qui a fait le buzz. Selon les révélations du consortium international des journalistes, je le rappelle, il aurait facilité l'implantation du géant américain de VTC Uber quand il était ministre de l'économie. Écoutez ce qu'il a répondu cet après-midi à notre correspondant.
Je conçois tout à fait qu'il veuille s'attaquer à ma pomme. Ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise. Ils ont perdu la boussole. Le ministre que je suis a fait son travail. Mais simplement, on introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, en particulier étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. Et en vous regardant, j'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur. Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi ? Je le referai demain et après-demain.
Déclaration d'Emmanuel Macron à notre reporter et notre correspondant aussi, Arthur Delaborde, qui fait partie du service politique d'Europe 1. C'est musclé quand même cette déclaration.
Ouais, alors deux remarques justement, une sur le fond, une sur la forme. Sur le fond, moi je trouve qu'il a plutôt raison, donc il persiste et il signe, il assume totalement ce qu'il a fait. Et dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on reproche en fait, le problème autour de Uber, c'est l'image catastrophique de cette marque, puisqu'elle maltraite en fait ses salariés. Mais si on revient au fond de l'histoire, au fond de l'affaire de Uber, à l'époque, tout le monde était contre le monopole des taxis, tout le monde voulait faire casser ce monopole-là, et voyait les VTC, ou l'essor des VTC, comme un moyen de réduire l'influence des taxis. Ensuite, sur la forme, moi je trouve qu'un président de la République, enfin je trouve que c'est assez vulgaire en fait.
Oui.
Il n'a pas besoin de dire ça.
Cette
pour
référence
le message...
à Jacques Chirac notamment, cette déclaration
voilà.
de Jacques Chirac.
Mais une référence à des propos de Jacques Chirac que Jacques Chirac n'a jamais prononcé oralement, et ça a été rapporté par des journalistes et dans des livres. Donc c'est une chose que ce soit écrit, c'en est une autre de le dire soi-même, d'autant plus que je précise, la phrase n'est pas exacte, c'est sans faire bouger l'autre normalement. Et vous savez, il dit ça. Sans toucher, sans bouger l'autre. Et normalement, on dit sans faire bouger l'autre. C'était la phrase de Jacques Chirac, si on reprend la phrase initiale.
Merci beaucoup pour cette précision.
Il est spécialiste des gros loups. Oui, entre les jambes, voilà. Louis Dragnel.
Voilà.
Mais simplement,
Caffon.
Qu'est-ce qu'il fait dans une formule simple, c'est qu'il singe Jacques Chirac. C'est là qu'il en est, hein, sur la forme. Alors, pour analyser le propos, si on doit analyser le propos, d'abord, c'est quand vous avez finalement un problème, vous créez une polémique. Bon, bah, il crée sa micro-polémique avec « on commente tous la phrase de Chirac reprononcée par Macron ». Donc ça, c'est le premier point. Il a tellement pas de talent que finalement, il est obligé d'imiter Chirac ou faire un clin d'œil appuyé.
Il aime les citations surtout, en fait. Généralement, c'est plutôt des auteurs ou des philosophes.
Oui,
là,
voilà.
Il est allé citer un président
Donc ça,
de la République.
C'est intéressant. Déjà, c'est intéressant. Il crée une polémique. On va passer... si j'ose dire rapidement à autre chose. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'il veut faire dans le popu, on a vraiment l'impression qu'il prend les Français pour des imbéciles un petit peu, parce que quand je me mets à leur niveau, je suis forcément vulgaire. Et en fait, les Français, ils attendent de leurs dirigeants, même des milieux populaires, apparemment il ne les connaît pas très bien, les milieux populaires, il n'a pas appris en 5 ans, il apprend que les Français aiment que leurs dirigeants leur parlent avec respect. C'est comme si un instituteur, un enseignant, un magistrat venait à parler comme le président de la République. Imaginez l'effet, ils ne tiendraient ni leur classe, ni leur prétoire. Et ça pose quand même une difficulté. La troisième chose sur la polémique qui n'en est pas une, au fond, il dit « j'ai toujours été l'ami des patrons et je continuerai. Et ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, c'est la même chose. Hein. » pour ne pas dire « je vous emmerde », parce que c'est exactement ce que ça veut
le
dire.
Le côté président des riches, c'est ça
qui bah, lui c'est, était, oui, qui lui j'ai été élu, il le dit, il a raison de l'assumer. Mandat. Et c'est vrai que c'est, en ça, ce n'est pas une nouveauté. Après, je viendrai à la polémique elle-même. Il a raison d'assumer d'être finalement l'ami des lobbies. C'est comme ça qu'il était connu finalement à Bercy, et c'est comme ça qu'il a conduit au moins la première partie de son mandat. Là où c'est un peu plus gênant quand même quand on regarde, c'est que d'abord, en fait, c'est pas la question du beurre sur lequel il a une fascination, c'est la question de la déconstruction du droit du travail, et notamment le fait qu'avant, pour être VTC, il fallait 250 heures de formation, et maintenant, il faut 5 heures, autant dire rien. Et tous ceux qui connaissent dans les grandes villes les VTC savent, ils sont bien placés pour le savoir, que les gars n'ont aucune espèce de formation. Les bonbons et la bouteille d'eau à l'arrière de la voiture c'est, et la cravate rouge, c'est bel et bien fini. Hein. Oui. Et donc, on tire vers le bas une profession entière. Ah, est-ce qu'il y avait pour autant, finalement, des difficultés de monopole sur la profession de taxi ? Sans doute, mais il y avait peut-être d'autres manières de le traiter.
Non, mais, Louis Dragnel.
Après, moi, je trouve que honnêtement, la manière avec laquelle c'est présenté en termes de polémique, je trouve que c'est totalement excessif parce qu'on parle d'un deal secret. Et de quoi il s'agit ?
De contrepartie.
Moi, je lis ça, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent en jeu.
Oui, il y a aucune contrepartie à ce stade.
Et ça, Louis Dragnel, il faut. Je suis pas l'ambassadeur d'Emmanuel Macron. Deuxième élément. Le deal secret, c'est parce que Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'économie, n'a pas inscrit dans son agenda public le fait qu'il recevait les patrons de Uber. Si, c'est comme c'est ça. La polémique. Non, mais attends, c'est ce qui est écrit, en tout cas, dans le journal du soir qui révèle cette. Moi, je trouve une pseudo-affaire. En fait, tous les ministres, et vous en connaissez certains ou vous en avez connus, ont des agendas qu'ils ne publient pas et c'est normal.
Mais c'est pas le sujet, franchement.
Mais le deal secret, attendez, la phrase est extrêmement forte. Le deal secret, c'est ça qui ouvre la boîte à fantasmes.
Moi, ce qui me choque, c'est pas ça.
François Calfon.
Et je termine simplement par rapport à ce que vous disiez, c'est que moi je me souviens très très bien du débat qu'il y a eu à cette époque-là sur l'ouverture en fait à la concurrence du marché des taxis. Il y avait énormément de gens qui disaient, mais c'est et donc il y avait les ultralibéraux globalement et une partie de la gauche qui disaient c'est formidable, on n'a plus besoin de patrons, donc les patrons qui se font des marges en gros sur nos têtes, sur notre travail.
Le patron il s'appelle Uber. Hein.
Voilà, mais à l'époque personne ne le disait.
30%.
Tout le monde trouvait ça. Tous les gens qui défendaient Uber trouvaient ça merveilleux. Et ensuite, deuxième chose, c'est que au moment où s'installe Uber en France, les conditions de rémunération des chauffeurs n'avait rien à voir avec les conditions aujourd'hui qui ont évolué. C'est pour ça que vous disiez le
2011,
petit bonbon,
l'implantation. 2011 l'implantation.
Les bonbons et la bouteille d'eau et mais le 2000... chauffeur non, qui était en costume impeccable dans sa 508 parce que ils avaient tous la même voiture.
Il est tellement talentueux que je ne peux pas l'interrompre.
Non, mais je vais y arriver. Je vous ai laissé parler, cher François. Et bien, c'est terminé parce que précisément les chauffeurs n'ont plus du tout les mêmes conditions
de
travail.
Comme tous les journalistes le font et vous ne vous distinguez pas, n'est-ce pas ? Vous réduisez à néant cette polémique. Il y a quand même des choses
pas
qui sont...
Pas du tout, tous les journalistes sont en boucle.
Il y a une vraie logique des pays d'idées qui soient hétérodoxes à Europe 1.
Excusez-moi.
Vous avez table ouverte, François, allez-y.
Mais ça, j'ai bien compris, mais je vais déployer mon idée. Elle est toute simple. D'abord, ce qui me choque, moi, c'est quand il dit à un lobbyiste, écrivez des amendements, lui en tant que ministre, et je me débrouillerai pour le faire passer à des députés amis. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on voit la séance où effectivement quelques députés recrachent comme des Playmobil, il aime bien les députés Playmobil, finalement des argumentaires rédigés par une boîte américaine. Ça c'est choquant, je suis désolé, on n'est pas représentant de commerce, comme on disait il y a 30 ans, de telle et telle marque quand on est président de la République, ou à cette époque-là simplement ministre de l'économie. La deuxième chose, Louis Dragnel, est-ce que vous avez l'ensemble de la liste des donateurs d'Emmanuel Macron à sa campagne? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a aucun des cadres d'Uber qui a donné à sa campagne électorale? Car tout le monde sait que la façon dont M. Emmanuel Macron a financé sa campagne, c'est par des chèques de tout le board, comme on dit, le CODIR, n'est-ce pas, de telle entreprise qui donnait 7 500 euros chacun. Donc moi, j'aimerais vérifier que les choses ne se sont pas passées ainsi, parce que je sais qu'il y a des boîtes, je ne les citerai pas à l'antenne, des boîtes entières où vous avez le comité exécutif, 40 types qui ont donné 7 500 euros et qui ont eu des décisions favorables, notamment dans cette loi qui voulait finalement supprimer les entraves au bon déroulement de l'économie.
Si ça c'est prouvé, c'est proprement là pour le coup scandaleux.
Enfin, c'est extrêmement choquant. Vous ne pensez pas que les plus fins lignées de ce consortium de journalistes sont sur le coup?
Ben c'est une autre affaire, l'affaire, on le sait très bien, c'était dans les Macron Leaks, du financement de la campagne d'Emmanuel Macron.
Juste une toute petite remarque, s'agissant de la première remarque que vous émettiez tout à l'heure, sur
les
amendements clés en main.
La boxe
moi je suis le premier à être choqué par ça, mais on va se parler franchement, c'est une pratique extrêmement répandue, c'est dramatique, mais c'est de fait le cas. à la fois chez les parlementaires et au sein du gouvernement. Je termine simplement en disant que c'est quand même le rôle et la mission du ministre de l'économie d'être au contact à la fois des entreprises françaises et des entreprises étrangères
qui ont une activité économique en France. Élections législatives il n'y a pas longtemps. Est-ce que à ce moment-là, il faut qu'il publie sur son affiche ses sponsors, Uber, Carrefour,
c'est pas un joueur
Volvic,
de football,
etc. De fait, le parlementaire ne fait pas son travail, c'est-à-dire qu'il reçoit, et vous avez raison, Louis Dragnel, mais il faut le rappeler à nos auditeurs, reçoit des box entières, clés en main, pour faire son travail de parlementaire. À ce moment-là, il faut qu'il rende les 7000 euros, de le dire.
Alors ça fait réagir évidemment, vous le pensez bien, au sein de l'Assemblée qui était réunie cet après-midi pour les questions au gouvernement. Écoutez la réaction de Daniel Simonet, les députés NUP-LFI de la 15e circonscription de Paris. Et elle accuse Emmanuel Macron d'avoir servi des intérêts privés.
Après les affaires McKinsey, Alstom, les sociétés d'autoroutes et j'en passe, voilà le scandale d'État Macron-Uber-Gate. Pour s'implanter en France, Uber, face à la lutte des taxis, dont mon collègue Sébastien Delogu se souvient bien, Uber, le géant américain de l'évasion fiscale, de la casse de notre modèle social, a pu s'appuyer largement sur son VRP en chef, Emmanuel Macron. Un ministre de la République aurait donc servi les intérêts d'une plateforme américaine contre l'avis même de son gouvernement et de notre administration.
Madame Simonet.
Il est grand temps d'imposer la séparation des lobbies et de l'État.
Merci.
François Calmon, vous appréciez la formule,
ça la séparation des lobbies et de l'État, j'aime bien, mais bon, en fait, c'est ce que dit Louis Dragnel, ils sont partout, les lobbies. Oui. Et en fait, la vraie différence, parce qu'on est là dans une émission où on donne de l'intelligence, la vraie différence, c'est que faire valoir des groupes d'intérêt, alors il n'y a pas que des groupes d'intérêt financiers, c'est tout à fait normal, par exemple les alcooliques anonymes, ou les gens qui aiment l'environnement, ou les femmes célibataires, tout ce que vous voulez, c'est tout à fait normal. La question, c'est que les parlementaires ne sont pas censés, appartenir à tel et tel lobby. Dans le temps, dans le Midi Rouge, le Gard qui n'est plus du tout rouge, il y avait les députés viticoles, on appelait ça, et ils étaient toujours contre toutes les lois limitant la consommation d'alcool.
Ouais, bon, merci pour ce... Voilà, vous avez clouté le débat. Ça tombe bien parce qu'on va enchaîner par un autre événement qui n'a pas forcément fait la une aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la télévision politique était déjà bien chargée par ailleurs. Le gouvernement va proposer de conditionner la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à la maîtrise d'un niveau minimal de français, et ce afin de conforter l'intégration. Écoutez Gérald Darmanin.
Pour l'intégration, c'est un point très important. À la demande de la Première ministre, nous doublerons les crédits pour l'intégration et nous conditionnerons notamment le titre de séjour pluriannuel pour un étranger qui passe plusieurs années sur le territoire national, de l'apprentissage et surtout l'examen pour devenir français, d'avoir la langue française, soit pour naturalisation, soit pour un examen de régularisation. Nous allons augmenter de façon importante ces crédits d'intégration.
Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'était cet après-midi. Louis Dragnel, voilà, vous l'aviez vu venir, cette mesure, cette déclaration de Gérald Darmanin ?
Ce qui est intéressant, c'est que Gérald Darmanin est vraiment là pour muscler la jambe droite du gouvernement. Il faut quand même rappeler que dans la même séquence, Elisabeth Borne dit « Nous, on n'a aucun lien avec le Rassemblement national, on ne cherche pas les voix du RN ». Et pourtant, Gérald Darmanin, que fait-il ? Le week-end dernier, entretien au journal Le Monde, et dans ce journal, il explique qu'il va proposer de permettre l'expulsion de tout étranger sur le territoire français, situation régulière ou irrégulière, donc tout étranger qui commet un délit sur le territoire français, qu'il puisse être expulsé automatiquement. Donc là, clairement, immédiatement, Marine Le Pen a dit que si
on va l'écouter, justement,
c'était proposé, elle était tout à fait disposée à le voter, et là, épisode 2, il propose cette mesure qui, dans les faits, globalement, ne change pas énormément de choses. Aujourd'hui, juste un petit moment technique, pour prétendre avoir un titre de séjour, il faut que la progression de la personne qui est candidate aille vers le niveau A1 de niveau de français, c'est-à-dire honnêtement connaître une poignée de mots, et c'est quand même un niveau assez faible. Et là, ce que Gérald Darmanin propose, c'est que désormais, il y ait un niveau minimum de français avec des constructions de phrases, voilà, qui montrent une forme d'intégration à la communauté nationale, voilà, qui permettent à tout candidat de pouvoir prétendre à sa présence en fait, sur le territoire français sous la forme d'un titre de séjour. Donc là, voilà, clairement, l'objectif politique, c'est de toucher les Républicains et le RN, mais il n'en demeure pas moins que quand on regarde le sujet complet, alors ça ne dépend pas uniquement de Gérald Darmanin, on sait qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais globalement, il n'a jamais eu l'autorisation au-dessus de lui d'expulser de manière ferme tous les clandestins qui étaient sur le territoire français ou qui étaient déjà l'objet, qui faisaient déjà l'objet de mesures d'expulsion. Je rappelle juste un chiffre sur le bilan. L'année 2021, il y a eu 62 000 obligations de quitter le territoire français qui ont été prononcées par la justice, et c'est-à-dire des expulsions. Il y en a seulement 3 500 qui ont été exécutées, c'est-à-dire 5,6%. Donc c'est extrêmement faible. Et le quinquennat globalement d'Emmanuel Macron, avec Gérard Collomb au début, puis Christophe Castaner, a été un des plus mauvais en termes d'efficacité sur les questions d'immigration. Donc il y a voilà, cet enjeu, et Gérald Darmanin joue ce rôle de parler à la droite, d'essayer de montrer qu'il est crédible sur les questions d'immigration.
Alors merci pour ces précisions, Louis Dragnel, très importantes. Avant de vous entendre, François Calfon, on va écouter justement la réaction de Marine Le Pen sur l'orientation que prend le ministère de l'Intérieur. Elle ironise, écoutez.
La semaine dernière, vous déclariez dans cet hémicycle le compromis. Ce n'est pas se compromettre, c'est accepter chacun de faire un pas vers l'autre. Je n'imaginais pas que moins d'une semaine après, par la voix de votre ministre de l'Intérieur, le gouvernement aurait fait ce pas. Ainsi, dimanche, votre ministre de l'Intérieur déclarait vouloir, je le cite, « permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice ». Je salue donc ce pas vers nous, puisque nous défendons en effet cette mesure depuis des décennies, mais surtout ce pas vers tous les Français, puisque si j'en crois les sondages, les Français la plébiscitent, y compris les sympathisants de la France insoumise.
Du Marine Le Pen dans le texte, elle ironise évidemment en voyant ce rapprochement avec le RN aujourd'hui à l'Assemblée.
Bah écoutez, déjà je vais répondre sur la mesure elle-même. Je pense que le gouvernement a hors sujet en réalité, parce que quel est l'essentiel des pays originaires de notre immigration ? Ce sont les pays francophones. Et moi qui suis très attaché à la francophonie, à la langue française, savez-vous quel est le pays le plus francophone au monde, par exemple ? Ben, ça n'est pas la France, c'est la République démocratique du Congo. C'est par la République démocratique du Congo que le français sera une des langues les plus parlées au monde en 2050. Donc on devrait en faire une force plutôt que de considérer que tous les étrangers sont des gens qui veulent nous piquer notre argent, ne savent pas maîtriser le français, etc. etc. Donc si on veut rétablir quelque chose qui me paraît important, c'est pourquoi pas, c'est tabou dans ma famille politique, les quotas d'immigration, et qu'on veut privilégier tous ces pays d'Afrique francophone, j'en serais le premier ravi. Mais je ne suis pas sûr que c'est l'objectif visé par M. Darmanin ou Mme Le Pen. Donc quand on commence à présenter une mesure, il faut savoir là où on va la chercher. Ensuite, vous savez, le « et en même temps » macronien ne trompe plus personne. Vous ne pouvez pas faire « et en même temps » Pape Ndiaye, voilà, avec une forme de repentance, et en même temps une sorte d'agenda, même plus caché d'ailleurs, ouvert, Mme Le Pen ironise, qui est l'exécution de l'agenda du Front National. Tout ça a conduit à une dédiabolisation totale du Front National. Et j'ai envie de dire, finalement, que nous aura permis le macronisme si ça continue sur cette pente ? Eh bien, c'est l'autoroute vers l'arrivée du Rassemblement National aux responsabilités dans ce pays. Bravo, M. Macron.
Darmanin qui parle quand même de volonté d'intégration. Hein, 2650 personnes expulsées en France depuis plus d'un an.
J'avais moins 3500, ouais, mais on sent encore plus faible.
Oui, c'est encore plus faible. Il y a cette volonté d'intégration, c'est-à-dire qu'il se sert de cette...
Mais le problème au fond, c'est que globalement, on parle beaucoup. Dans le discours public, beaucoup de gens disent qu'il faut en fait, c'est soit permettre l'assimilation, l'intégration. Mais en réalité, le sujet, c'est qu'on intègre, on assimile quasiment plus personne. Aujourd'hui, les personnes issues de l'immigration qui s'en sortent sont des héros. C'est-à-dire qu'ils ne doivent quasiment rien à la République. La République ne leur a rien offert. Et le problème, c'est qu'il y a une immigration qui est quand même très très importante. Chaque année, c'est quand même l'équivalent de la population de la ville de Bordeaux qui reçoit un premier titre de séjour. Donc on atteint quand même des proportions très importantes, hein, avec les titres de séjour au nom des étudiants étrangers, l'immigration familiale qui a beaucoup augmenté, et paradoxalement l'immigration économique qui est très faible. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tout le monde pense souvent naturellement mais il faut l'immigration pour l'économie, mais aujourd'hui c'est à peu près 30 à 35 000 titres de séjour par an sur un total de 290 000 titres de séjour qui sont délivrés. Donc je trouve qu'à chaque fois, on se trompe un peu de curseur. Et si Gérald Darmanin, au fond, avait vraiment voulu montrer qu'il veut être efficace, il fallait annoncer une réduction du nombre de titres de séjour, il faut annoncer une augmentation très forte des expulsions. Il faut quand même rappeler que Emmanuel Macron s'était engagé à 100% d'exécution des obligations de quitter le territoire français. C'était en 2019. Et donc voilà, maintenant je pense que les mots ne suffisent pas.
C'est une forme de compromis, c'est quoi
Pour l'instant, ce sont des mots.
Oui, c'est des mots.
Et le RN, à mon avis, et même les Républicains vont cogner un peu le gouvernement en expliquant les mots, c'est intéressant, mais regardez la politique que vous avez mise en œuvre. En
fait, François Calfon.
Les mots de ce gouvernement, enfin des précédents, plus personne ne les croit. Et l'autorité de l'État a été mise à mal, alors notamment en matière de sécurité et d'immigration, par des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur, ça vient d'être dit. Mais je vais filer mon idée. Au lieu simplement de mettre toujours plus de barrières, de frontières, quand vous avez une immigration en France qui est quand même essentiellement africaine, maghrébine ou subsaharienne, regardez, une grande ambition qui serait de donner l'envie aux personnes issues de ces pays-là de ne pas partir. Nous pourrions, au lieu de finalement distribuer des titres de séjour provisoires pour les étudiants, ouvrir avec l'effort de la France, ce serait une œuvre beaucoup plus intéressante, qui mettrait à niveau dans la culture française et la langue française une grande université française en Afrique, collaborer avec les pays à l'époque du G5 Sahel qui sont soumis à un terrorisme endémique pour que nous réhabilitions la France, non pas simplement par des missions militaires, mais par des missions civilisationnelles avec des pays qui gagnent finalement à... Parce que vous ne le dites pas, Louis Dragnel, on réduit le débat, mais tous ces pays ont des systèmes juridiques qui sont très proches des nôtres, et des systèmes cadastraux qui sont très proches des nôtres.
Il y a beaucoup d'anciennes colonies ou d'anciens protectorats.
Chaque année, l'administration française intègre, y compris l'ENA à l'époque, où elle existait encore, même si des tas d'étudiants de ces pays-là qui seront les quatre dirigeants de ces pays. Vous voyez, tout de suite, on voit les choses, l'immigration un peu différemment, avec de la générosité. Et non plus avec la peur au ventre, avec les frontières, les barbelés qu'il faut construire en permanence.
Merci François Calfon, merci Louis Dragnel. C'était musclé, c'était exaltant. Voilà, on vous retrouve évidemment bientôt sur Europe 1. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Vous restez évidemment, dans quelques instants, on va évidemment poursuivre les débats dans Panorama. On va parler des jambons, du nitrite. Ça fait débat. À tout de suite.
Europe Soir, 18h-20h. Céline Géraud.